Parole rurale, l'émission de reportage à la rencontre des paysans qui nous entourent.
Ou le quotidien en milieu rural raconté par ceux qui le vivent.
Claire, merci de nous recevoir au-dessus du Tarn, dans la commune de Brocquès, auprès de beaux châtaigniers, dans lesquels tes abeilles butinent et se régalent, et te permettent de proposer un miel et ses dérivés à de nombreuses personnes qui s'en régalent.
Et bonjour. Bonjour.
C'est magnifique, je pensais pas qu'il y avait des châtaigniers ici, je me suis dit, mais où est-ce qu'elle nous emmène?
Ah ouais, on est à Brocquès, enfin sur la vallée du Tarn, et je suis Claire Véder, apicultrice à Millau.
Oh, voilà. Tu viens jusqu'ici pour Météouche?
Ouais, enfin, je les ai amenés lundi là, je les mets ici pendant la période du châtaignier. Celle qui a le panneau attention abeilles là, elle est pas super cool, et là-bas il y en a deux autres aussi. Enfin, cette année c'est sur ce rucher là que j'en ai deux, trois un petit peu... un peu mauvaise, mais sinon elles sont tranquilles. Ouais.
Et tu vois
puis là, elles bossent, donc elles sont assez tranquilles.
Ah ouais. Déjà ?
Mais j'ai amené une combinaison. Hein.
Oui, nous aussi.
Vous avez le dard dans l'oreille.
Tu as le dard dans l'oreille encore.
Je vais l'enlever.
Ah ouais.
On va se pousser peut-être.
Ouais, elles nous aiment bien, elles nous connaissent pas. Tu te fais pas trop piquer, toi ?
Oh si, pas forcément tous les jours, mais certains jours j'en prends quelques-unes, ouais. Ouais, ça dépend beaucoup de la météo quoi.
Tu t'habilles ?
Ah oui, moi je mets une combinaison, je mets des bottes, enfin j'apprécie pas particulièrement de me faire piquer. Hein. Mais oui, je m'équipe. Après quand il fait vraiment chaud, vraiment doux et qu'on travaille sur des petites colonies, elles sont calmes et on se fait pas piquer quoi. Et on peut travailler en short claquette.
Tu y vas les bras nus ?
Non, je mets des gants. Ouais.
Est-ce que tu y crois aux gens qui vont s'habiller?
Ah oui, j'y crois. Des masos, il y en a partout. Moi, c'est pas que je prends plaisir à les embêter, mais des fois, je suis obligée d'y aller par des météos un peu fraîches ou un peu orageuses. Enfin, je suis obligée de m'habiller. Quoi, il y a certains printemps, on commence de faire des essaims, on commence de bosser sur les ruches, et puis on se prend des semaines entières à 13-14 degrés. Des fois, on est obligé d'intervenir dessus, quoi.
Comment en dessous de 12?
Ah bah elles bougent pas trop quoi, elles sont dans la ruche et ouais. À partir de 20 degrés normalement ça va. Hein.
Et alors c'est ton métier depuis longtemps ?
La transition avec mon ancien métier c'était en 2017 et du coup je me suis vraiment installée en 2018 en apiculture. J'étais en expérimentation végétale, bossée dans les arbres fruitiers à noyaux, sur les maladies ravageurs des arbres fruitiers. Et 2017 ça a été la transition, tester un peu, se poser la question oui ou non... On s'installe, c'était avec mon ex-compagnon. Et en 2018, on a trouvé une maison à Millau et on a décidé de s'installer en apiculture.
Tu en es marré par combien de ruches ?
14.
Ah, direct.
ma dot à moi, c'était 2 et la dot de mon ex-compagnon, c'était 12.
Ah, d'accord.
Les miennes étaient vachement meilleures d'un point de vue génétique et sanitaire. Mais lui, il avait la quantité, quoi. Enfin, la quantité. Mmh. 14 ruches, c'est rien, hein, mais... On a démarré comme ça et on a acheté en tout en... On a fait le cheptel nous-mêmes, on croit qu'on a acheté 20 ou 30 essaims en tout. Parce qu'il y a des années, on se disait, bon, cette année, il faut qu'on commence à 100 colonies, et puis on en avait un peu moins, donc on complétait en achetant quelques essaims pour se dire, ok, on commence vraiment l'année sur ce nombre-là, quoi. Mais on a commencé comme ça et on a divisé. Et ben là, je reviens, en fait, j'étais montée à quasiment 250 colonies en tout. Pas colonies de production, hein, colonies en tout, y compris essaims et nucléi. Et quand on s'est séparé avec mon ex-compagnon, on a divisé tout en deux. Donc je suis repartie l'an dernier, en janvier, de 100 colonies en tout. Et là, je reviens de nouveau à un peu plus de 200, quoi. 200, je n'ai pas recompté là, mais 220, 230.
Tu peux expliquer pour les auditeurs de Radio Saint-Taf qui peut-être connaissent pas trop le monde des abeilles, comment on arrive à avoir des colonies supplémentaires ?
Soit on va à la cueillette des saints. On regarde les ruches essaimées, on va récupérer les essaims dans les arbres. Ça, c'est l'option 1, qui est longue, fastidieuse et qui donne pas forcément de résultats. Et l'option 2, qui est la mienne, c'est de diviser les colonies. Donc, en sortie d'hiver, je fais ce qu'on appelle la visite de printemps, en février-mars. Donc, c'est assez tôt, c'est plutôt l'hiver que le printemps. Mais on garde les plus belles colonies qui vont rentrer en production assez rapidement, dès la mielée de bruyère blanche en mars. Et toutes les colonies qui sont un peu moins belles, où la reine montre un peu des signes de faiblesse, ou qui vont avoir du mal à produire du miel, on les divise. Donc soit on les divise et on les laisse élever elles-mêmes des rennes, soit on les divise et on fait un élevage de rennes à côté et on introduit des rennes ou des cellules royales. On remère comme ça en introduisant des rennes d'une génétique qu'on a sélectionnée, quoi.
C'est-à-dire d'une autre ruche, tu prends des cellules royales d'une autre ruche.
Je fais l'élevage soit sur mes meilleures ruches à moi de l'année d'avant, soit sur des rennes de sélection que j'achète.
C'est quoi une meilleure ruche ?
Pour moi, c'est une ruche qui est douce, parce que sur une ruche très agressive, je ne vais pas sélectionner, parce que sinon ça donne quelque chose d'un peu explosif. Une ruche qui est douce, qui fait du miel et qui est autonome autant que possible. Une ruche qui a passé l'hiver sans que j'ai besoin de lui donner 1 kg de sucre, qui ne me saute pas dessus quand je l'ouvre et qui fait des hausses de miel, pour moi c'est ça la meilleure ruche. Et aussi si possible qui n'a pas trop tendance à laisser mage. Donc qui n'a pas envie de se barrer dès la première année de la reine et dès qu'elle occupe de la place
dans
la
ruche. Une bonne ruche, elle doit faire de laisser mage pour se multiplier.
Dans la nature, oui, mais là, en production, le moins possible.
Et avec quelle abeille tu travailles ?
Je suis en Buckfast, moi. Je ne suis pas en abeille noire, je suis en Buckfast. Bon, après, ça s'hybride un peu, ça se mélange un peu, j'ai un peu de tout, mais sinon, je suis en Buckfast, toi.
Pourquoi ?
Pour la douceur des abeilles, essentiellement, quoi. Quand on se retrouve avec d'autres apiculteurs et que je vois les combinaisons avec lesquelles ils travaillent sur leurs abeilles, quand ils sont en abeille noire, ça ne me donne pas forcément très envie. Ils ont des combinaisons triple couche, parce que sinon ils se font agresser en continu, quoi. Enfin, l'abeille noire, c'est adapté à une apiculture, beaucoup moins intensive, quoi, où on décide de pas ou peu intervenir sur les ruches.
Ou plus rustique.
Pour une apiculture transhumante où on évite l'essaimage, etc., l'abeille noire, c'est pas ce qui convient le mieux, quoi. Là, on est sur une transhumance. J'aimerais que ce soit un rucher fixe ici. Et c'est ce que j'ai voulu faire l'an dernier. Et l'an dernier, il n'y a pas une mielée de châtaignier. Enfin, ici, en tout cas, ça n'a pas mielé. Les abeilles ont crevé de faim. Et du coup, je les ai rapatriées début juillet, je crois. Je les ai rapatriées en espérant faire un petit peu mieux sur le Larzac. Parce qu'il y avait encore un peu de châtaignier là-bas. J'ai pas de rucher de base, en fait. Je suis transhumante. Après, sinon, c'est Vallée du Tarn, Larzac, Cosnoir. Mais j'ai pas de ruchers de base, quoi. Mes ruches, après, elles hivernent au nord de Montpellier, du côté du Salagou et du côté de Faugères. Du côté de Millau, parce qu'il y a trop de frelons asiatiques en automne. Ça décime les colonies. Je transhume avec un 4x4 et une remorque. Et maintenant, j'ai une petite grue pour pouvoir soulever les ruches. Donc, il faut que ce soit accessible, manœuvrable, et que je puisse et que ce soit si possible de niveau. Ici, c'est le contre-exemple. Du rucher facile d'accès pour moi, parce qu'il y a de la pente.
C'est difficile pour toi de porter les ruches ?
Ah, moi je peux pas porter une ruche, je pèse moins lourd qu'une ruche. Une ruche en saison, sans la hausse, elle fait entre 40 et 50 kilos. Avec la hausse vide, c'est-à-dire sans miel, elle fait 45 kilos. Elle fait mon poids. Donc non, je peux pas la porter. Je peux porter des essaims, je peux porter des ruchettes, je peux porter des ruches dans lesquelles j'ai fait des essaims ou des ruches qui sont pas en production, mais des ruches avec une hausse et... En saison, je ne peux pas la porter. Donc je transhume soit en portant les ruches à deux, soit avec ma grue seule. Transhumance, c'est quelque chose quand même. Les autres critères sur les emplacements, alors l'accessibilité, si possible que ce soit pas trop près d'un chemin de rando ou de quelque chose comme ça, parce que quand on travaille sur les ruches, on ne sait pas si justement on va être en train d'ouvrir une ruche agressive au moment où il y a un groupe qui passe sur un chemin de rando. C'est pas la situation idéale. Pendant les mielées, c'est bien que ce soit pas trop exposé au vent. Par rapport au vol, je sais plus quoi penser. Est-ce qu'il faut que ce soit visible, caché? Là, je n'ai pas vraiment de politique là-dessus. On peut voler des ruches partout. Ouais, j'ai beaucoup de copains qui se sont fait voler soit quelques ruches sur le rucher, soit des ruchers entiers. Alors, donc moi, j'hiverne au nord de Montpellier, Salagou et Faugères. Je commence à la Bruyère Blanche à Faugères, normalement. Sauf que cette année, je l'ai faite du côté d'Avennes, parce qu'à Faugères, il n'a pas plu et ça n'a rien fait du tout. Après, Vallée du Tarn. Normalement, j'arrive pour la floraison des cerisiers. Cette année, la Bruyère Blanche n'était pas finie quand les cerisiers ont fleuri, donc je suis arrivée après le cerisier. Après la Vallée du Tarn, c'est les Causses, donc Larzac, Causses Noires. Sur les Causses, c'est Fleurs de Prairie et Fleurs Sauvages. Saint-Foin, Luzerne et Fleurs Sauvages. Et après les Causses, c'est Châtaignier vallée du Tarn et lavande. Voilà. Et la lavande, cette année, je suis allée dans la Drôme et à Valensole. J'aimerais bien bouger moins. Après, j'ai pas forcément envie d'étendre ma gamme, puisque j'ai déjà une bonne gamme de miel. Et puis après, on habitue sa clientèle à des nouveaux miels, et puis il faut les tenir, il faut les avoir d'une année sur l'autre, et j'ai pas forcément envie de... Enfin, j'en ai déjà 7, 8, 9 en fonction des années. Parce que je fais aussi le rhododendron dans les Pyrénées-Orientales, à Formiguère. Donc ça commence la gamme du plus doux au plus fort, c'est rhododendron, miel du Larzac ou miel de Causse. Miel de fleur d'été, c'est du tournesol, miel de lavande. Quand j'ai de quoi faire, je fais un mélange châtaignier et lavande. Châtaignier seul et bruyère blanc. Et j'aimerais bien avoir un miel plus fort comme le miel de sarrasin. Donc ça, c'est les miels. Et après, je fais de la transfo, je fais du nougat. Au miel de lavande ou au miel de châtaignier, du pain d'épices. Je fais un baume, je commence de faire des savons et je fais des produits à base de propolis aussi. Teinture mère de propolis, spray à la propolis, miel à la propolis.
Du pollen t'en fais ?
Non. J'ai réessayé cette année et ça a été relativement catastrophique. Il a fait très humide donc c'est compliqué, il faut passer récupérer, relever les trappes très souvent. Quand on fait le pollen, on a beaucoup de mal dans les ruches et... Je vais pas dire c'est gros idiot de mal, ça serait pas... sur les trappes à pollen, il y a des petites sorties qui permettent au mâle de sortir de la ruche parce que sinon ils peuvent pas passer à travers la grille qu'on met pour récupérer le pollen. Et j'ai régulièrement des problèmes avec trop de mâle dans les ruches et qui viennent boucher la grille à pollen. J'ai un risque d'étouffement des ruches.
Donc avec toutes ces ruches et la transformation, t'es à temps plein?
Ah, je suis un bon gros temps plein, oui. la vie d'une apicultrice, en l'occurrence pour moi, elle est aussi calée sur la vie d'une maman. Parce que j'ai une fille que j'élève seule. Enfin, seule, c'est pas tout à fait vrai, parce que mon compagnon a des enfants aussi. Et du coup, en saison, il m'aide pas mal. Et il a une fille qui a le même âge que la mienne, donc il me dépanne aussi pas mal. La vie d'une apicultrice, ça dépend des saisons. En saison, c'est du quasiment 7 jours sur 7, toute la journée et des fois le soir. Enfin, j'ai une miellerie qui est une miellerie de fortune, mais elle a l'avantage d'être à 3 mètres de la porte d'entrée de ma maison. Mais bon, ça, j'arrive... Les premières années, c'était vraiment ça tout le temps. Je commence à réussir à m'organiser et à optimiser un peu le travail pour moi travailler le soir.
Est-ce que tu arrives à en vivre ?
Depuis un an et demi, je me paye un petit salaire. Je me paye 500 euros par mois. Donc, j'en vis pas vraiment. Après, le fait d'être en entreprise, il y a pas mal de charges quand même qui sont portées par l'entreprise. Le téléphone, les frais de véhicule, une partie des frais d'électricité, etc. quoi. Ça va, enfin, je m'en sors, je mange à ma faim, je mange des bons produits et je peux nourrir et habiller ma fille et même avoir quelques loisirs. Ben, c'est sûr que j'aimerais mieux me payer mieux, arrêter de rouler avec des voitures qui ont toutes 350 000 km et qui sont en panne tout le temps. Et j'aimerais bien avoir un peu de confort sur certains points. Enfin, c'est sûr que si c'était pour le fric, je ferais pas ce métier-là. Quoi.
Tu peux nous dire ce que tu aimes ?
Dans l'apiculture ? Bah déjà, le matin, mes trajets domicile-travail sont pas forcément déplaisants. Je me débrouille toujours pour passer par les plus petites et les plus jolies routes. Quand c'est pas à pied que je vais bosser. Enfin, en saison, je suis dans la nature tout le temps. Et dans des endroits qui sont super jolis. Enfin, les routes d'accès sont souvent très jolies et les spots eux-mêmes sont magnifiques. Comptable, commercial, je fais de la transfo, donc je suis cuisinière, un peu graphiste quand je fais des étiquettes ou des choses comme ça, même si maintenant je fais appel à une vraie graphiste. Il y a de la menuiserie, il y a plein de métiers dans le métier, quoi. De la mécanique.
Tu parles que tu vas facilement sur ton rucher, mais tu parles aussi que tu as des ruchers très éloignés, alors tu passes un peu.
Et ouais, alors l'avantage des ruchers très, très éloignés, c'est que j'y vais quasiment jamais en fait. Enfin, sur la lavande notamment, je pose les ruches et je retourne les chercher.
Un rucher comme ici au châtaignier, tu y viens combien de fois ?
Là, je viens une fois par semaine et je les laisse. Je sais pas combien de temps je vais les laisser, la récolte c'est dans un mois à peu près. Si l'été est humide, enfin s'il fait bon, je vais peut-être les laisser ici jusqu'à la fin de l'été. Là, je vais passer une fois par semaine pendant le temps de la miellée, et si je décide de les laisser jusqu'à la fin de l'été, je passerai toutes les deux semaines après, une fois que la miellée est terminée. Donc moi, c'est 32, et puis aussi quand j'arrive sur un rucher où il y a trop de ruches, enfin quand il faut tout visiter chaque ruche, s'il y a 40 ou 50 ruches, ça me démoralise dès que j'arrive, quoi. une trentaine de ruches, je trouve que c'est le bon nombre. Et puis même pour les transhumances, en fait, quand on transhume trop de ruches, moi j'arrête pas d'avoir des problèmes mécaniques, de crever, on est super chargé, quoi. 30 ruches qui font 50 kg, c'est une tonne 5. J'ai des fois des plus gros ruchers, mais c'est des ruchers d'essaim ou de nucléi, qui représentent pas des colonies entières, en fait, qui sont des toutes petites colonies.
Est-ce que c'est un métier que tu conseillerais à ta fille ?
Moi, je lui conseillerais rien du tout. Après, si elle a envie de le faire, je l'aiderai et je l'aiderai à trouver des solutions pour que ce soit viable et qu'elle s'y épuise pas. Je sais pas si j'aurai la prétention de pouvoir faire ça. Moi, pour l'instant, je m'y épuise, donc donc je sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas, je l'accompagnerai là-dedans. Mais non, je le conseillerais à personne. Enfin, c'est un métier de dingue quand même. C'est un rythme de dingue, quoi. Hors saison, on arrive à poser un peu, mais en saison. Partie des ruches qui ont généralement pas besoin d'être nourries. Après, ben, y a toujours des colonies un peu plus faibles ou qui ont eu un circuit de transhumance moins favorable.
Est-ce que tu peux nous expliquer, pour quelqu'un qui ne comprend pas,
ouais,
sur quoi on se base? Parce que tu fais du miel, tu en récoltes.
Oui.
Donc, pourquoi tu ne le laisses pas aux abeilles qu'elles puissent passer l'hiver? et quelle quantité tu leur laisses?
Ouais. Comme quantité, je leur laisse tout ce qu'il y a dans le corps de la ruche. En général, le Laos, c'est de l'excédent. Le Laos, c'est l'étage qui fait la moitié du volume de la ruche et qui est rajouté au-dessus de la ruche en saison. Donc on récolte Laos et on ne récolte pas le corps de la ruche. Dans le corps de la ruche, il faut vérifier qu'on ait suffisamment de réserves justement pour passer l'hiver. Donc dans le corps de la ruche, il y a la colonie, les abeilles, il y a le couvain, il y a du pollen et du miel. Le couvain, c'est les œufs et les larves et les abeilles en développement. Il y a 10 cadres dans une ruche, ça peut s'étendre sur jusqu'à 8, 9, voire éventuellement 10 cadres en saison. Et en hiver, le couvain réduit, si c'est un hiver très froid, pour atteindre des... Bah, rien du tout, quoi, pour quasiment disparaître. Alors j'en ai quelques-uns, des troncs d'arbres à la maison. J'en ai trois qui sont pas tout le temps peuplés, mais il y a souvent des abeilles dedans quand même. Le tronc d'arbre à transhumer, c'est pas facile. À récolter, c'est pas facile non plus. À traiter, c'est pas facile. Parce qu'il y a des parasites sur les abeilles qu'il faut absolument traiter, sinon on perd les
ruches. Parce qu'on traite les abeilles ?
Et ouais, on traite les abeilles. Il y a des traitements sur un parasite qui s'appelle le varroa. Enfin, son petit nom, c'est même varroa destructor. Le travail avec les abeilles, il est chouette parce que c'est une espèce de collaboration, en fait. Et voilà, les abeilles au travail. S'occupe d'elle, enfin, moi en tout cas c'est l'espèce de deal que j'ai avec elle, c'est si vous me faites manger, enfin moi je m'occupe de vous, je vous assure votre survie, je vous assure votre subsistance et j'essaye même que vous soyez heureuse entre guillemets, si moi j'arrive à vivre de ce métier là quoi. L'homme et l'abeille c'est une coévolution depuis je sais pas à quand ça remonte mais quelques milliers d'années, ce côté là il est chouette et puis travailler avec l'abeille c'est tout, enfin c'est des stratégies toujours qu'on met en place pour la suivre dans son évolution naturelle et puis des fois aussi pour un peu la truander, lui faire croire qu'elle a une reine, lui faire croire qu'elle en a plus, etc.
Essayer de comprendre les abeilles, est-ce que quelqu'un les a compris au jour d'aujourd'hui ?
Ah, il y a beaucoup d'études
dessus. Est-ce que tu sais la marque du GPS qu'elles ont ? La marque du portable qu'elles ont ?
Non, mais ça c'est clair que c'est un... Enfin, comme tous les insectes certainement, mais c'est un insecte
qui est très complexe,
qui a des capacités qui sont immenses. Quoi,
c'est pas demain qu'on arrivera à les comprendre,
ouais.
Je pense.
Ouais.
J'ai entendu coopération, collaboration et truander. Comment ça va ensemble ?
Bah non, mais truander, c'est un mot un peu fort, mais c'est que réellement dans l'apiculture, notamment dans l'élevage des rennes, dans la production des daims, dans pas mal de choses comme ça, il faut comprendre le fonctionnement de l'abeille et réussir de temps en temps à contourner son fonctionnement ou à l'utiliser. Il y a les abeilles, elles fonctionnent énormément sur des systèmes de phéromones notamment et donc la communication entre elles, la communication dans la ruche, ce que fait la reine. Enfin, on croit que la reine, elle est toute puissante, mais pas du tout. La plupart des choses qu'elle fait, c'est commandé par la colonie entière. Il y a tout un travail de compréhension, de connaissance, et après de contournement de ce qu'elles font naturellement, quoi.
Et est-ce qu'une apicultrice heureuse émet des phéromones qui...
Des phéromones.
Des phéromones, pardon. Qui permettent un travail plus en sérénité avec les abeilles ? Est-ce que vous reconnaissez au bout ?
Je sais pas. Cette année, je suis allée souvent avec des nouvelles personnes aux ruches qui m'ont dit « Ah, mais moi, je me fais plus attaquer que toi parce qu'elles me connaissent pas. » C'est une possibilité. Moi, j'essaye de jamais avoir de gestes brusques et puis de les traiter le mieux possible parce que c'est une relation qui se fait sur le long terme. C'est comme avec un troupeau de brebis ou de vaches. C'est un peu pareil, quoi. Si on arrive chaque matin sur les ruchers et qu'on met trois coups de pied dans chaque ruche, elles risquent de pas beaucoup nous apprécier, quoi. Moi, j'essaye de travailler avec elles de façon douce et je les aime, quoi. Donc, j'essaye de bien d'en prendre soin et de bien les traiter. Après, quand je transhume, par exemple, je sais que c'est pas forcément ce qu'elles préfèrent. Il y a des manips qui sont pas idéales, mais par exemple, il y a beaucoup d'apiculteurs qui récoltent au souffleur. Moi, je trouve ça super violent comme méthode. Donc, j'essaye de l'utiliser le moins possible et je récolte à l'ancienne, à la balayette. Là, j'essaye de commencer à récolter au chasse-abeille, qui est une méthode encore plus douce. Mais
c'est comment, le chasse-abeille ?
Le chasse-abeille, c'est un plateau en bois qu'on met entre les hausses qui sont pleines de miel et le corps de la ruche. Et il y a un outil en plastique qui est fixé sur le bois et qui est un système à sens unique de passage des abeilles à sens unique, en fait, qui permet aux abeilles de sortir de la hausse qui est pleine de miel, de retourner vers le corps de la ruche. Mais c'est compliqué de faire le trajet inverse pour les abeilles. Donc ça permet, normalement, en une nuit, on vide à peu près la hausse d'abeilles, et quand on vient récolter, il n'y a quasiment plus d'abeilles dedans.
Et qu'il faut poser la veille.
Et qu'il faut poser la veille. Ça nécessite de lever toutes les hausses avant de poser le chasse-abeilles. C'est pour ça que je viens de les acheter, je commence juste de les utiliser, mais je n'ai pas encore bien l'habitude. Mais ça permet de récolter de façon encore plus douce.
Est-ce que tu as essayé la musique avec tes abeilles
pour... Alors, ça m'arrive d'écouter de la musique ou d'écouter la radio. En étant en ruche, quand j'ai des manips à faire qui ne me demandent pas trop d'utiliser mon cerveau. Donc ça m'arrive. Ça m'arrive même de poser une petite enceinte sur les ruches. Ça n'a pas l'air de leur déplaire. Mais je ne dirais, dirais pas que ça les calme ou que ça les adoucit. Mais ça n'a pas l'air de leur déplaire. Après, moi, globalement, je ne me plains pas. Hein, J'ai des abeilles qui sont douces, j'ai des colonies qui sont douces. Ça m'arrive d'en avoir 2-3 chaque année qui sont un peu plus agressives, mais globalement, ça se passe très bien.
Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps. Et dans la ruche tourbillonne, prêtes à prendre leur élan. Bzz, 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 bzz. Et les abeilles se posant par cent et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine. Elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen. Bzz, bzz, bzz. Les abeilles, ces gentilles petites bestioles, fabriquent d'abord de la cire. Elles y font des alvéoles, doux petits nids pour bien dormir. Bzz, 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 bzz. Les abeilles, m'égare à celui qui s'égare. Au milieu d'elle par hasard, il aura beau s'enfuir dardard, il sera piqué par le dard. De l'abeille. Quand vient le grand jour de la ponte, la reine doit faire de son cordon, et dans l'azur elle monte, monte, poursuivi par tous les bourdons. Ça va être sa fête. C'est celui qui la rattrapera qui sera le bourdon papa. Mais tout de suite après, il mourra pour avoir donné tout ce qu'il a.
Moi, je suis en bio, donc je traite à l'acide oxalique.
Comment tu fais pour être en bio avec les abeilles? Tu les parques?
Alors, pour être en bio, je ne les fais butiner que sur des zones qui sont soit en agriculture bio, soit sauvage, soit un mix de tout ça. Mais bon, en tout cas, il faut pas qu'il y ait d'agriculture conventionnelle autour, quoi. Quand je dois les nourrir, je les nourris avec du sucre bio. Et après, il y a certaines pratiques qui sont pas autorisées. On n'a pas le droit de nourrir des ruches si c'est pas vraiment un nourrissage de subsistance, quoi. Voilà, un besoin. On n'a pas le droit de clipper les rennes, c'est-à-dire leur couper les ailes pour pas qu'elles puissent s'aimer loin. On doit utiliser des ruches en bois, mais bon, ça, de toute façon, ça ne me viendrait pas à l'idée d'utiliser des ruches en plastique.
Le temps passe. Est-ce que tu as des choses à dire aux auditeurs de Radio Saint-Aff?
Venez discuter avec des apiculteurs, venez nous rencontrer, venez goûter nos produits.
Claire, merci pour cette délicieuse rencontre, un peu piquante pour Christian et pour moi, avec nos fragiles peaux. Merci pour tout cet échange passionnant. Chers amis auditeurs, nous nous rencontrons la semaine prochaine avec Lucie sur la commune de Saint-Jean-du-Bruel, aux confins est du département, en pays Cévenol, pour que Lucie nous raconte son verger sur les monts du Château d'Algues, au-dessus de la Dourbie. Amis auditeurs de Radio Saint-Ave sur Parole Rurale, si vous vous plaisez à écouter cette émission, si vous avez d'autres idées, des personnes à rencontrer, si vous voulez nous faire des commentaires, n'hésitez pas, nous avons besoin de vos retours. Nous passons beaucoup de temps à nous déplacer dans le département, à enregistrer, à monter les émissions, et pour nous motiver davantage à poursuivre, merci de nous écrire. Parole au pluriel, rural au pluriel, @gmail.com. Avec Chantal Christian, Et Pascal, nous aurons plaisir à vous répondre.